Alors que le réalisateur britannico-américain Christopher Nolan lui consacre son dernier film ce mois-ci, retour sur un génie de la science du XXe siècle, Robert Oppenheimer. Père de la bombe atomique, ce pacifiste convaincu vivra en homme tourmenté toute sa vie. Malgré ses affinités avec le communisme, il est placé à la tête du projet Manhattan, le nom de code de la mission de recherche qui a amené à la création de la première arme atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Imaginez, il est 5h39, ce 16 juillet 1945, en plein désert du Nouveau-Mexique. Le jour n'est pas encore levé et Robert Oppenheimer attend que tout soit prêt pour laisser Trinity, l'explosion de la première bombe atomique de l'histoire conçue par son équipe au laboratoire de Los Alamos. Un premier essai qui se conclut par une déflagration dont l'onde de choc parcourt 160 km à la ronde et un champignon qui s'élève dans le ciel, haut de 12 km. Voilà ce qui se passe avec un peu plus de 6 kg de plutonium quand on applique la célèbre équation d'Albert Einstein, E égale mc2. Dans un abri spécial, les yeux protégés par des lunettes prévues à cet effet, Oppenheimer assiste à l'effet qu'il attendait depuis 5 ans. Né à New York en 1904 d'une famille juive aisée ayant émigré d'Allemagne aux États-Unis et ayant fait fortune dans l'importation de textiles, Robert Oppenheimer et sa famille faisaient notamment partie de l'Ethical Culture Society, une association du judaïsme réformiste américain. Jeune, il s'intéresse autant à la science, à la philosophie qu'à la spiritualité. Il présente aussi de grandes aptitudes, parle plusieurs langues et se fait parfois renvoyer de l'école, non parce qu'il ne connaissait pas les réponses, mais au contraire parce qu'il en savait plus que ses professeurs. À 18 ans, il intègre Harvard, où il suit simultanément plusieurs cursus de sciences et de lettres. Il achève ses études aux Pays-Bas, où il s'intéresse à une toute nouvelle discipline, la physique quantique. Garçon timide, il est doté d'un charisme hors du commun. Il ne s'intéresse pas tellement à la gente féminine, mais un premier amour le fait fréquenter des cercles communistes. Certaines idées de justice sociale le touchent, mais il est trop indépendant pour suivre une idéologie à la lettre. Et puis ce qui l'intéresse vraiment, c'est la physique. Il continue ses recherches sur la fusion nucléaire et la réaction en chaîne. À la même époque, un autre savant juif, Albert Einstein, s'inquiète des mauvaises applications que pourrait avoir cette découverte majeure. Réfugié aux États-Unis à cause de la montée du nazisme, il décide d'écrire au président Roosevelt qui veut lancer le projet Uranium pour mener une réflexion sur les armes atomiques. Il veut alerter le président du risque que les nazis construisent une arme atomique, ce qui pousse le gouvernement américain à développer sa propre bombe. C'est le projet secret Manhattan qu'Oppenheimer est chargé de coordonner. Au début de la Seconde Guerre mondiale, toutes les nations se livrent à une course pour acquérir de l'avance sur les armes nucléaires. Et puis, le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent Pearl Harbor, ce qui déclenchera immédiatement l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit mondial. C'est Robert Oppenheimer que l'on charge de recruter et coordonner l'équipe de scientifiques du projet Manhattan. Paradoxalement, il est profondément pacifiste, comme la majorité des physiciens de son époque. Seule la recherche fondamentale l'intéresse. Dans un premier temps, le FBI s'oppose à sa nomination car il le soupçonne de sympathie communiste. Ils suivent chacun de ses mouvements. Mais la liste des brillantes recherches de Robert Oppenheimer plaide en sa faveur. À la tête du projet, il sillonne les États-Unis pour recruter les plus grands scientifiques. Beaucoup sont des juifs qui ont fui l'Allemagne nazie. Parmi eux, Richard Feynman, un juif du Queens spécialisé dans la physique quantique et futur prix Nobel. Il y a aussi Hans Bethe, ce juif autrichien qui a fui l'Allemagne nazie et qui travaille sur la fission nucléaire. Dans cette équipe, il y aura également Theodor Hall, né Holtzberg. Pour centraliser les recherches scientifiques du projet Manhattan, l'armée américaine construit un laboratoire secret au cœur du Nouveau-Mexique, à Los Alamos. Un véritable décor de western dans des vallées couvertes de poussière rouge, loin de tout. Pendant plusieurs mois, l'équipe travaille sur une bombe à fission nucléaire. Quand le 7 mai 1945, l'Allemagne abdique enfin, Robert Oppenheimer hésite à continuer le projet Manhattan. Il ne souhaite pas créer des armes trop destructrices. Il est ravi du premier essai Trinity, mais dévasté par ses conséquences. Mais le Pentagone n'est pas d'accord avec lui, et puis les recherches sont sur le point d'aboutir. Quelques jours plus tard, il assiste à une réunion top secrète avec le président des États-Unis. Il est question d'obliger le Japon à se rendre et de venger l'humiliation de Pearl Harbor. Le 6 août 1945, une bombe baptisée Little Boy va s'écraser sur la ville d'Hiroshima. 70 000 personnes meurent instantanément dans un rayon de 12 km. Trois jours plus tard, c'est le même scénario sur la ville de Nagasaki. Robert Oppenheimer est terrifié par l'ampleur des destructions causées par son invention et démissionne du projet Manhattan pour reprendre son travail de recherche fondamentale dans diverses universités. Dans les années 50, en plein macartisme, le scientifique est accusé de sympathie communiste. Son habilitation sécurité lui est retirée. En cette période difficile, seul Albert Einstein lui écrit une lettre de soutien. En réalité, ce que l'on reproche à Oppenheimer, c'est son discours sur la prudence à l'égard de la prolifération nucléaire et sur le fait qu'il s'oppose au développement de la bombe H, une bombe thermonucléaire plus destructrice encore que la bombe d'Hiroshima. Finalement réhabilité par Kennedy en 1963, le département de l'énergie nucléaire décide de le distinguer pour ses recherches. Mais malgré la reconnaissance de ses pairs, Robert Oppenheimer s'enfonce dans un état mélancolique. Atteint d'un cancer de la gorge, il meurt à Princeton en 1967.